France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. La musique est au cœur de sa vie depuis l'adolescence et c'est derrière une caméra qu'il a composé ses plus belles partitions. Aujourd'hui, c'est un entretien avec le cinéaste Claude Sautet que nous vous invitons à écouter dans une archive de 1976. Invité au micro de Claude Maupomé, le cinéaste se confiait sur le rôle essentiel que la musique avait joué dans sa vie et il avait choisi de nous faire partager ses fascinations musicales, au premier rang desquelles figurait Jean-Sébastien Bach. Retrouvons tout de suite la première partie du concert égoïste de Claude Sautet.
Perturbé. Non, parce que c'est un sens, c'est que ces deux chansons sont tellement opposées dans sa forme d'esprit.
Oui, on voit bien tout ce qui lui plaît là-dedans, c'est sûr.
On va mettre Philistin, on parlera, il n'y a pas d'amour heureux.
Classe tout risque, l'arme à gauche, les choses de la vie. Ça, l'ordre chronologique n'a aucune importance
pour
moi.
Non, c'est pour ça,
moi,
c'est bien.
Mais manger, parce que vous ne pourrez pas après parler et manger. Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres.
Il faudrait une semaine par mois. Ce serait plus intéressant avec le même type, si peu.
Oui, mais ce serait plus intéressant vraiment parce que là, on négocie une compensation en se disant oui, ça c'est trop connu, je vais pas ça. Alors évidemment, Beethoven disparaît parce que on peut pas.
Et tout dernièrement, Mado.
Or, ma partie est superbe. Tout le début est superbe, mais jamais. Donc c'est vrai, le début de Daphné, c'est une chose totalement méconnue, d'une façon générale. Or, c'est d'un des plus beaux crescendo qui soit. Enfin, par rapport à mon métier, c'est typique comme rythme dramaturgique, cette espèce de...
Claude Sautet, cinéaste.
Dans les thèmes répétitifs, ça, c'est tout à fait unique. Je me rends compte dans le travail que c'est le concret qui décide, et non pas l'idée qui décide. Dans le travail en France, c'est que le concret doit passer avant.
Le concert égoïste de Claude Sautet. Claude Sautet, à part une solide réputation de musicien, les deux ou trois choses que je sais de vous, je les ai apprises en lisant le livre de Michel Piccoli, Dialogue égoïste. Il semblerait que vous soyez un inquiet, un coléreux, un hypersensible, mais il précise que votre hypersensibilité n'est pas maladive puisque vous la gérez.
Oui, c'est une formule picolienne en diable.
Et puis, il cite une phrase qu'il vous a entendu dire et qui est « Le concret, il n'y a que ça qui m'intéresse. » Ce qui n'est pas prouvé dans le programme du tout que vous avez établi.
Je me rends compte dans le travail que c'est le concret qui décide et non pas l'idée qui décide. Et que l'idée vient du concret. Et les Français ont une telle tendance à théoriser que c'est une phrase que je répète tout le temps dans le travail en France, c'est que le concret doit passer avant. Alors c'est une espèce d'obsession qui fait que je le répète, non pas que c'est ma conviction absolue.
C'est pas votre devise.
Non, c'est un argument polémiste.
C'est ça. Puis alors ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est un grand sens de l'amitié, on dirait. La fidélité en amitié est dans le travail. Dans les équipes de travail.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail possible sans amitié. Mais l'amitié est relative. C'est certain que c'est dans le travail que l'amitié prend ses plus belles couleurs, parce qu'elle se concrétise.
Et alors, ce qui frappe dans vos films, à mon sens, c'est comme ça que je les vois, c'est la rigueur, la justesse, une certaine réserve, presque la pudeur peut-être. Et je ne saurais pas très bien expliquer ça, mais un certain sens musical de la forme. Mais que je ne peux pas
certain,
préciser.
Il est certain que je ne suis pas venu au cinéma par les formes artistiques plastiques connues. Non, je crois que c'est vraiment je suis un musicien refoulé, en fait. C'est-à-dire, et pour moi, le cinéma n'est pas explicatif ni démonstratif. Il est d'ordre expressif, c'est-à-dire beaucoup plus près de la musique. Donc, de tout ce qui concerne la musique, c'est-à-dire le rythme, le lyrisme, le mouvement interne. Et ce n'est pas ce qui est dit qui est important. C'est la façon dont ça se remue concrètement. Voilà, concrètement, c'est très précis, comme les instruments de musique sont des choses concrètes, extrêmement concrètes. Et l'écriture d'un film, le scénario, la façon dont on le fait, c'est un peu comme les signes de l'écriture musicale,
oui,
qui sont incompréhensibles pour le profane. Eh bien, pour moi, la musique, le cinéma est un peu de cet ordre. Je ne peux pas l'expliquer, plus que je ne peux expliquer la musique.
Et ce programme, comment est-ce que vous l'avez établi? D'abord, j'ai dû vous le faire restreindre beaucoup.
Au départ, c'est une opération castratrice de choisir.
Oui.
Alors j'ai essayé de chercher un ordre plutôt qu'un autre. J'ai essayé de remonter dans ce qui m'avait touché depuis l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Et effectivement, ces fascinations que j'ai reçues n'ont pas... Je ne suis pas sûr qu'il n'avait pas bougé, c'est-à-dire. Et que tout s'est développé après, mais qu'en fait, je n'avais jamais pu renier rien de ce qui m'avait touché à l'origine. Alors, comme à l'origine, j'étais dans un collège de frères écoles chrétiennes assez sévère à Orléans. Mmh. Un collège s'appelait Sainte-Verte, d'ailleurs où Piccoli a passé plus tard. C'est très curieux, hein. C'est un hasard étrange. Et comme j'étais très timide et, je sais pas, un peu en retard, pas doué, distrait, j'étais mignon et je me sentais minable, oppressé. Mais dans ce collège, j'avais des chorales. Il y avait une heure par jour tous les soirs. Et effectivement, je me suis précipité dans cette chorale où un autre monde s'est ouvert devant moi. J'ai l'impression que quand on chante en chœur, on a l'impression qu'il y a une possibilité de rapport avec les autres, alors je n'en voyais pas avant.
Ça vous aidait à vivre la journée en attendant la soirée.
C'est ça. Mmh. Dans la cantate numéro 4, le verset numéro 6, qui est un duo entre le groupe des sopranes et le groupe des ténors, qui reste d'une beauté, d'une fraîcheur, qui sont évidentes quand on est enfant, hein, quand on est adulte, elle vous touche d'autant plus.
Nous écoutions un extrait de la cantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden, interprété par la chorale Heinrich Schütz de Heilbronn, l'orchestre de chambre de Pforzheim, dirigé par Fritz Werner. Vous disiez, Claude Sautet, qu'un autre monde s'ouvrait pour vous le soir.
C'est-à-dire que c'est un lieu commun de dire que le collège des pensionnaires, pour quelqu'un qui n'est pas un brillant élève, est un monde de pression. C'est un lieu commun de le dire maintenant, mais en fait, c'était, surtout à l'époque, c'était une chose réelle. Et effectivement, ce type de cœur laisse supposer qu'il y a un autre monde que celui dans lequel on vit.
Oui. Alors nous continuons avec la cantate BWV 140.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est très connue, et je me demandais si je devais la passer, mais j'ai envie de la passer parce que comme elle est triturée dans 25 versions modernisées à la trompette, à la clarinette, ça m'énerve tellement qu'il faudrait quand même rappeler son origine, qui est... Alors j'en ai joué très vite, je ne sais pas, pour que ce soit un air plus amusant. Or, à l'origine, l'air est assez grave, et il ne faut pas oublier que l'air célèbre qui est à... n'est qu'un accompagnement à l'origine chez Bach. Mm-hmm. Et tout cet accompagnement est fait pour mettre en valeur le choral pur, qui est un choral extrêmement strict et très luthérien. Alors, disons que c'est un bouquet célèbre pour la musique chorale de Bach, parce que c'est en même temps un des plus simples et celui qui a presque la plus grande ferveur populaire. Thank you.
Voilà, nous avons rendu à Bach ce qui lui appartient.
Eh oui. Là, c'est très typique de ce qui s'est produit chez Bach, c'est-à-dire qu'on sent qu'à l'origine, Bach n'est pas un inventeur d'air par rapport aux Italiens, par exemple, qu'il enviait beaucoup. C'était, et qu'il avait cette modestie d'accompagnateur au départ, et qui fait que cette impreté dans la modestie par rapport, disons, au texte luthérien qu'il voulait chanter, fait que cet accompagnement a fini par devenir l'air lui-même, chose dont il n'avait même pas de conscience, je pense.
Et comment est-ce que vous êtes passé de la musique chorale à la musique instrumentale?
Eh bien, normalement, j'aurais dû tout de suite aimer l'orgue, mais non, c'est-à-dire que l'orgue, à l'époque, dans ce climat religieux assez strict, me semblait, à tort évidemment, un machin un peu lourd et ennuyeux.
Une machine, c'est ce que c'est.
Oui, la machine. Et je ne me rendais pas du tout compte de la puissance de l'instrument à l'époque. Ce qui fait que, étant toujours plongé dans Bach, c'est plutôt le clavecin qui m'a fait découvrir d'un seul coup que non seulement c'était ce monsieur puissant et lyrique, mais que c'était un percussionniste extraordinaire, cette chose qu'à l'origine je ne savais pas. Maintenant on connaît, on sait que c'était un percussionniste, Bach. Mais à l'époque je ne le devinais pas. Effectivement, et alors je me suis précipité dans le clavecin de Bach, ça pour moi c'est une merveille, la découverte du clavecin, du rythme marqué, parce qu'il n'y a pas de mystère. Alors, oui, je suis resté pendant des années obsédé par le clavecin, avant le piano d'ailleurs. J'ai choisi le premier mouvement du concerto numéro 1 en ré mineur. Oui, j'ai demandé d'ailleurs la version de George Malcolm parce que je trouve qu'il est particulièrement puissant et brillant dedans.
Sur l'Allegro du concerto numéro 1 en ré mineur, BWV 1052, de Jean-Sébastien Bach, qui était interprété par George Malcolm, et l'orchestre de chambre de Stuttgart, dirigé par Karl Münchinger, que Claude Sautet avait demandé et écouté avec grand plaisir.
Oui, je veux dire.
Y compris le suspense de la fin.
Je voulais penser à autre chose, je n'y arrivais pas parce que, effectivement, il y a des espèces de cadences au milieu qui sont d'ordre dramatique élémentaire. Et il y a une espèce d'arrêt volontaire dans lequel on sent qu'il le prolonge en s'amusant avant qu'il reprenne le thème à la fin. Chez Bach, ça, c'est quand on découvre ce jeu qui est un vrai plaisir. Ce musicien le plus sérieux qui existait, c'est incroyable qu'il ait pu s'amuser autant en écrivant.
Alors, du clavecin, vous avez prêté attention à l'orgue.
Oui, alors, à force de découvrir l'écriture de Bach par le clavecin, je me suis rendu compte finalement que l'orgue était un plus grand instrument, donc je me suis mis à réécouter l'orgue de Bach. Alors là, vraiment, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je voulais passer qui pourrait correspondre à quelque chose de profond en moi. Et je veux dire que je ne suis pas arrivé. J'ai cherché une chose qui n'est pas très connue, ce qui est dans les chorales de Leipzig. Il a écrit un choral superbe qui est le choral Alain Gott, dont il a fait une première variation, une deuxième, qui s'appelle le trio super Alain Gott. Et très peu de gens le connaissent. Et puis surtout que, enfin, moi j'ai entendu par Chapuis. Chapuis joue les chorales de Bach avec une netteté et un doigté, une joie de jouer l'orgue d'une façon claire, lisible et pourtant rapide, vite. Alors voilà, trio super Alain Gott. Thank you.
Jean-Sébastien Bach, le trio sur Alain Gott, BWV 664, par Michel Chapuis. Claude Sautet, est-ce que vous voulez que nous écoutions le Buxtehude tout de suite?
Maintenant, c'est devenu plus courant, mais à un moment, on ne connaissait plus de Bach, on oubliait complètement qu'il y avait des organistes avant. Enfin, maintenant, c'est devenu un bateau, mais à l'époque, il n'y avait plus de Bach. Et on croyait que Buxtehude, c'était un espèce de type sombre, son professeur. Quand on l'écoute, non. On ne sait pas ça que c'est pas ça du tout.
Oui.
Mais on est toujours élève de Buxtehude, dans les arts de Buxtehude, ça ne va pas être marrant. Et bien, pas du tout. Buxtehude, c'était d'une jovialité continuelle, quoi. Oui, alors j'ai pris, évidemment, un des trucs les plus brillants de Buxtehude. C'est Prélude fugue et chaconne en ut majeur.
Toujours interprété par Michel Chapuis.
Par Michel Chapuis.
Buxtehude, prélude, fugue et chaconne en ut majeur par Michel Chapuis. Je pensais en regardant ce programme et en voyant arriver Mozart qu'il n'y avait pas d'opéra.
J'aime l'opéra, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus impressionné, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'opéra, je vois plus facilement de quoi c'est fait, c'est-à-dire. Et en plus, ça l'opéra, les voix même de l'opéra appartiennent à une époque. Et je fais un effort historique pour apprécier l'opéra. Alors que, effectivement, dans l'instrumentation, je n'en fais pas. Oui, alors là, évidemment, c'est très difficile de penser à Mozart. Mozart, on rentre dans l'individualisme, c'est-à-dire l'angoisse personnelle. Alors que, effectivement, jusque-là, l'angoisse personnelle se résout dans le collectif, quoi. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on a écouté jusque-là, c'est pourquoi toute la musique du 17e et 18e a un grand charme, a une grande force dans l'époque qu'on traverse, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression de possibilité d'existence collective. Quand on arrive à Mozart, on tombe en plein. Tout de suite commence, c'est là le début de l'époque moderne, quoi, c'est-à-dire l'angoisse individuelle, l'anxiété. Et alors, la Mozart, là, c'est vrai.
Et la mort, là.
Et la mort, oui, là. Choisir dans cette Mozart, là, c'est vraiment le piège, c'est impossible, quoi. C'est-à-dire que, d'avance, on sacrifie les 99,99% de Mozart. Alors, oui, évidemment, j'ai choisi L'ode funèbre, parce que cette ode funèbre a quand même quelque chose de merveilleux, parce qu'elle n'est presque pas religieuse. Elle est, d'ailleurs c'est maçonnique, je crois. Elle est, je sais pas, elle a quelque chose. Elle est grave, mais extrêmement vivante. C'est ça qui me frappe. Il y a ce mouvement au milieu, en majeur, qui donne l'impression que
le soleil,
personne n'existe. C'est extraordinaire. Et ça, enfin, surtout chez Mozart, qui était quand même un personnage tellement douloureux, c'est-à-dire cette espèce d'énergie, d'effort, je sais pas, d'enchantement qu'il éprouve à chanter quelqu'un de mort. Je crois que c'est dans la rigueur, parce que c'est très rigoureux. C'est une des choses où il a essayé le moins de faire le charme, et pourtant qui est une des choses les plus lyriques qu'il écrit, alors qu'il n'a pas de chant. Quand on l'a découvert, on s'est dit, mais c'est merveilleux, Mozart, ce n'est pas que ça, c'est ça aussi, évidemment. L'ode funèbre, en elle seule, elle signifie quelque chose enfin oui, c'est la profondeur de Mozart, quoi, et ce côté, c'est quand quelque chose, il est atteint de quelque chose de morbide, Mozart, je pense, on le sent, enfin, il n'y a pas de complaisance du tout, mais je sais pas, dans Mozart, on sent tout le temps la délicatesse liée à la mort, très proche, et dans l'autre funèbre, ça qui est beau, c'est qu'au contraire, elle n'a pas l'air proche pour lui, c'est ça qui est étrange, c'est vraiment tourné vers les autres.
Dépassé.
Ah oui, tout à fait.
Mozart, l'ode funèbre maçonnique, Schell 477, par l'Orchestre Symphonique Columbia, dirigé par Bruno Walter.
Et oui, évidemment, moi je suis... À l'écouter, je suis encore impressionné. C'est un point culminant de la musique modulée qui était... Je suis écrasé.
Claude Sautet, vous... mais ce qui m'étonnait, c'était justement que l'opéra, qui est plus proche de votre travail quotidien, enfin, où il y a des interprètes qui jouent la comédie, des décors, une action...
C'est vrai.
Servi par la musique, vous n'en éprouvez pas le besoin.
Oui, bien, il y a...
C'est chose plus urgente pour vous.
Paradoxe étrange, c'est-à-dire que l'opéra étant déjà lui-même un spectacle scénique, m'embarrasse. Je ne veux pas être influencé par, l'esthétique de l'opéra. Alors que, disons, la musique pure ne peut pas m'embarrasser. Parce qu'elle n'est pas, un spectacle scénique. Alors que et pourtant, je sais que par moments, je me rends bien compte que, pour employer le terme, que dans mes films, il y a des passages lyriques qui sont comme de l'opéra. Mais à ce moment-là, ils partent de l'essence même du cinéma et pas d'un autre spectacle scénique. C'est-à-dire que l'opéra, à un certain moment, rejoint le théâtre, et je ne veux pas être influencé par l'esthétique du théâtre et donc de l'opéra, qui en fait partie, parce que ça va me complexer, m'encombrer, et je vais être comme un petit toutou qui va essayer de faire de l'opéra en cinéma, je ne sais pas m'expliquer. Or, la notion d'opéra, quand elle existe au cinéma, elle existe chez Orson Welles, par exemple, elle est très forte, elle part du cinéma lui-même, voilà. Alors évidemment, par moments, on a l'impression, quand on réussit un bon mouvement, que c'est comme un opéra. Mais c'est comme un opéra tel que devait être un opéra à l'époque. Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Oui, alors là, je suis en train de lire ce que j'ai écrit, évidemment. Là, j'ai fait une rupture brutale parce que j'étais très embêté après l'ode funèbre. J'ai eu un moment de découragement. Alors, j'ai pensé aux chansons, bien que pendant très longtemps, je n'aimais pas aimer les chansons du tout. Dans ma jeunesse, c'est une réaction que j'ai eue. C'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à vraiment prendre les chansons pour ce qu'elles étaient. Alors là, je ne suis pas du tout en ordre chronologique, évidemment. J'en ai pris une au hasard parmi toutes celles qui me touchent. Et comme on était dans une note funèbre. Alors j'ai choisi quelqu'un qui jongle extraordinairement avec la mort, qui est Léo Ferré avec le temps.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. à la galerie je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Léo Ferré, avec le temps. Eh bien, il n'y a pas la modulation finale en non. majeur.
Ah non, là, non, non, effectivement. Mais...
C'est très beau.
C'est très beau.
Ah oui, c'est très, très beau.
Beau. Alors maintenant, pour changer, après, j'ai une chanson, mais... J'avais pensé à des chansons de Brassens que j'aime beaucoup. Enfin, une que j'ai voulu passer parce que je l'aime comme tout le monde l'aime. C'est celle dont il avait deux versions, qui est « Il n'y a pas d'amour heureux » et qui était « La prière ». Mais enfin, je veux dire, comme j'ai pris le son de Ferré, j'ai voulu changer et prendre un côté de Brassens qui me fait beaucoup marrer, quoi. C'est son côté. Son côté coquin, méchant, petit bourgeois. Alors, il y en a une qu'on entend très rarement, qui est le poème de Richepin, Les Philistins, qui est délicieuse.
Philistins épiciers, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent, vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, Un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes.
Avec les Philistins de Georges Brassens s'achève le premier volet du concert égoïste de Claude Sautet, une émission produite par Claude Maupomé en 1976. Nous retrouverons la suite demain. D'ici là, cette archive est disponible à la réécoute, de jour comme de nuit, sur francemusique.fr, sur la page des Trésors de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.